Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Il nous manque une troisième personne qui risque d'être un petit peu en retard, donc nous allons attaquer malgré tout. Donc, bienvenue à cette session sur l'utopie assistée par ordinateur selon la version Ian Banks. Donc, j'imagine que si vous êtes ici un samedi à midi, donc sans manger pour l'instant, c'est que la question potentiellement vous a intéressé, stimulé intellectuellement. Alors peut-être sur le versant utopie, peut-être sur le versant assisté par ordinateur, peut-être être vous aussi des lecteurs de Ian Banks. Et si vous ne connaissez pas Ian Banks, nous vous incitons très fortement à lire cet auteur qui est vraiment, stimulant. Enfin, moi, c'est un des auteurs que j'aime beaucoup. Alors, pour en discuter, nous avons donc trois éminents spécialistes, si ce n'est de Banks, du moins des thématiques qui sont traitées par Ian Banks. Donc, immédiatement à ma gauche, j'ai Gérard Klein, que j'hésite à présenter tellement c'est une grande figure de la science-fiction française, donc éditeur chez la fameuse collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont, donc auteur de romans sous son propre nom ou sous pseudonyme, donc le fameux Gambit des étoiles qui remonte déjà à 58, voilà. Directeur de collection au livre de poche, enfin voilà, donc un parcours d'auteur, de romancier, mais aussi de prospectiviste, d'économiste. Donc c'est aussi en ce sens-là que son expérience est intéressante et que ses commentaires nous intéresseront. À ma gauche, un peu plus loin, Olivier Paquet, compère en quelque sorte, puisque docteur en sciences politiques, voilà. Donc nous sommes en nos comptes compagnie. Voilà, une petite mafia, tout à fait. Auteur de science-fiction également, donc avec quelques romans, donc Structura Maxima, qui a commencé en quelque sorte sa carrière de romancier. Auteur de beaucoup de nouvelles également, et puis auteur aussi d'une série qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, qui s'appelle Le Melkin, donc trilogie, trois romans, dans laquelle on verra, Olivier nous expliquera qu'effectivement il s'est, alors peut-être pas inspiré, mais en tout cas il y a une forme de résonance avec le travail de Ian Banks, donc notamment sur le rôle des vaisseaux intelligents, et puis certains aspects qui, effectivement, peuvent se rapprocher du travail de Ian Banks. Pour anticiper, et pour ne pas la représenter un peu plus loin, donc nous attendons Sylvie Denis, donc novelliste, romancière, essayiste, enfin, personnalité multicasquette, anthologiste, traductrice aussi, donc quelqu'un qui a traduit Greg Egan, Baxter, Alastair Reynolds, si vous connaissez ces auteurs. Donc quelqu'un qui est aussi beaucoup intéressé par les nouvelles technologies, et son regard nous sera également très précieux pour parler des impacts potentiels des intelligences artificielles dans nos sociétés, puisque ce sera un des thèmes que nous traiterons probablement. Alors, pour rentrer dans le sujet, donc pour parler, on va beaucoup parler de la culture, hein, puisque donc qui a été appelé dans le titre de cette séance, l'utopie assistée par ordinateur, c'est donc la culture. Donc cette vaste civilisation pangalactique avec un très haut niveau de développement technologique, avec des valeurs plutôt libertaires, des valeurs qui sont portées par l'hédonisme ou le loisir, une place prépondérante, et qui accorde une grande importance donc à des formes d'égalité entre les différentes entités qui la peuplent, et dont on va voir qu'effectivement l'aspect assisté par ordinateur tient une forte présence des intelligences artificielles. Et c'est en ce sens-là qu'on peut décrire la culture comme une utopie assez particulière, et peut-être même la forme d'utopie la plus récente. Alors, avant de rentrer dans tout ça, j'ai peut-être demandé à Gérard Klein, qui a connu Ian Banks, qui est malheureusement décédé l'année dernière d'un cancer de la vésicule biliaire. Donc on a perdu un auteur précieux. J'ai peut-être demandé à Gérard Klein, qui l'a connu donc personnellement, et puis en tant d'éditeur, de présenter à la fois Banks, et puis de présenter peut-être un peu plus la culture.
Alors, présenter Ian Banks, pas très facile, parce que je l'ai connu, mais je ne l'ai pas très bien connu, et je commençais à bien le connaître au moment où il a commis l'impolitesse suprême de nous quitter, de façon d'ailleurs tout à fait involontaire, et qu'il regrettait lui-même avec beaucoup de courage, je dois le dire. Banks était écossais. C'est une chose importante à savoir, en particulier parce qu'une partie de ce qu'il a écrit est écrit dans un jargon ou un dialecte écossais qui est à peu près incompréhensible, en tout cas par moi, et très difficilement traduisible. Ce n'est pas le cas de la culture. Le cycle de la culture est sa création la plus importante, et il décrit une vaste société galactique qui est caractérisé, on aura l'occasion d'y venir, d'y revenir, par deux points. Le premier, c'est qu'elle a écarté le problème de la rareté. Il est pratiquement possible de se procurer tout ce qu'on veut à partir du moment où on dispose d'énergie, et l'énergie est pratiquement inépuisable par rapport aux besoins, aux demandes que les humains et d'autres peuples, on le verra après, peuvent se faire. Le deuxième aspect, c'est qu'il existe des intelligences artificielles de plusieurs niveaux, depuis les plus petites qui sont au moins aussi futées, probablement plus qu'un humain, qu'on appelle en général les drones, jusqu'à de gigantesques intelligences artificielles qui contrôlent les vaisseaux interstellaires ou des habitats stellaires, des orbites géantes, enfin, ou des choses de ce genre. Alors, au fur et à mesure que se développe le thème de la culture dans une série de livres, je ne sais plus exactement combien il y en a, 6 ou 7, je crois, enfin, au moins, pardon, on voit cette société particulière qui est anarchiste, hédoniste, tolérante, se confronter à d'autres sociétés qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, avec donc des possibilités de conflit. Les contacts pris avec ces autres sociétés le sont par des services très particuliers de la culture qui s'appellent Contact. Et quand il y a vraiment un loup, et il y a régulièrement des loups, ce sont circonstances spéciales. Le service circonstances spéciales, vous pouvez lire ça, services spéciaux, qui intervient. Ce qui est intéressant, c'est que les histoires que raconte Ian Banks se situent toutes, au fond, à la lisière de la culture. Elles ne se situent pas dans la culture, puisque le bonheur de chacun y est à peu près assuré, en tout cas la satisfaction non seulement de ses besoins, mais de ses désirs. Il n'y aurait pas grand-chose à en dire. Donc, c'est sur les bords que se retrouvent les conflits. Et alors, par une espèce de fait de zoom arrière, on voit que ce qu'on pouvait croire au départ, c'est que la culture était pratiquement la seule société galactique dans notre galaxie. Puis, progressivement, on s'aperçoit que la galaxie entière est peuplée et que la culture, cette immense société, très avancée technologiquement, n'est qu'un petit îlot de vie et d'intelligence dans cette petite partie de l'univers qui est notre galaxie.
Olivier, est-ce que tu veux compléter sur certains aspects ?
Oui, il y a des choses assez intéressantes. Effectivement, la culture pose la question de l'intervention. Comment intervenir dans d'autres sociétés différentes, avec des concepts différents, des principes de pensée différentes. Et donc, c'est le rapport où ça permet à la culture de se penser elle-même à travers l'autre. C'est le problème, en fait, de l'identité, c'est-à-dire que l'identité, c'est quelque chose qui ne se mesure finalement que confronté à l'étranger ou à la frontière. C'est pour ça que le Banks, pour parler de la culture, il est obligé de parler d'autres cultures. Parce que si
voilà, parce que ce qui fait les ressorts narratifs, effectivement, c'est à chaque fois la confrontation avec une autre civilisation qui met potentiellement la culture en danger et qui effectivement oblige certains acteurs à
voilà,
à
sinon on pourrait pas connaître la culture vu que c'est finalement une culture et la vie des individus est purement hédoniste. C'est aussi ce qui est très intéressant dans la culture pour comprendre son mode de fonctionnement, c'est que c'est une civilisation qui est motivée par la curiosité. C'est la curiosité vers les autres qui la motive. Elle est tellement puissante qu'il y a un concept chez Ian Banks qui est celui de la sublimation, c'est-à-dire que finalement, à partir d'un certain niveau d'avancement d'une société, elle peut décider de, en gros, de quitter l'univers et de laisser le reste se débrouiller. Et la culture, elle pourrait être au bord de ça, mais elle est tellement curieuse de l'univers que, quand même, l'univers est tellement vaste qu'on va y rester encore parce qu'il y a encore des choses à voir. Ça aussi, c'est un aspect que je trouve fascinant, c'est qu'elle refuse finalement. Gérard a dit, c'est une assez bonne, dans une de ses préfaces, une assez bonne utopie. C'est une utopie parce que c'est une assez bonne société. Elle n'est pas dans cette pure perfection qui, en fait, la ferait quitter l'univers. Finalement, l'utopie, la perfection d'une société est en dehors de l'univers. Et la culture décide de ne pas être totalement pas parfaite parce que l'univers est tellement riche, tellement intéressant qu'il vaut mieux encore y être que d'en partir.
Encore qu'elle est malgré tout sûre de ses valeurs et que voilà, son expansion, c'est aussi quelque chose qui est motivé par l'envie de répondre à ses valeurs à travers la galaxie et oui, d'en convaincre d'autres civilisations.
Je crois que le terme important, c'est celui de valeur. La culture a des valeurs qui ressemblent à peu près à ce que l'Occident peut défendre, peut prétendre représenter et défendre de meilleur. Et c'est à propos de valeurs qu'éventuellement elle entre en conflit, généralement subtilement menée, parfois de façon beaucoup plus brutale, avec d'autres sociétés, enfin avec d'autres civilisations. Il y a un point quand même sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier Paquet, c'est que la curiosité existe dans la culture, mais elle n'a plus grand sens pour les humains. Parce que les humains ne sont pas à la hauteur intellectuelle et à l'hauteur expérimentale des grandes machines pour faire des découvertes nouvelles sur le cosmos, si c'est possible.
Je suis d'accord par rapport au vaisseau, mais il y a quand même un truc, c'est que ça arrive à plusieurs reprises, notamment, je crois, que dans le roman Accession, c'est-à-dire, quand vous êtes un habitant de la culture, vous vivez une vie de jeux, etc. Mais finalement, le truc le plus fun, c'est de faire partie de contact. C'est le truc le plus fun. Donc, il y a cet aspect-là de curiosité. C'est-à-dire, il n'y a que là où on est dans une sorte d'institution. Il n'y a pas d'institution dans la culture. Dans l'Accession, il y a un moment, je trouve, très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre des extraterrestres et un habitat de la culture. Or, ces extraterrestres, ils ont besoin d'avoir des représentants politiques. Ah, merde. Mais il se trouve qu'il y a un truc un peu vague dans l'habitat. On peut avoir on va vous faire plaisir aux extraterrestres, on va représenter des gens, mais la vraie institution politique dans la culture, c'est contact. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la curiosité, elle est là. Si on veut vraiment s'amuser différemment, on va dans contact. Puis parfois, on se retrouve dans circonstances spéciales, ce qui est un autre problème.
Sylvie, qu'on n'a pas encore entendu.
Oui, mais il me semblait que les minds, les vaisseaux et toute la structure, etc., de la culture était quand même au service des humains, théoriquement. Ils sont là pour eux-mêmes, ils sont là parce que les humains ont besoin des drones, ont besoin des vaisseaux pour voyager, ont besoin des... etc. Donc même si après effectivement c'est plus intéressant d'être dans circonstances spéciales ou contact parce que c'est là qu'il y a de l'action c'est pas là qu'on vit une vie tranquille, elle est possible, mais ils n'existent pas pour eux-mêmes, il me semble, tous les grands esprits.
Oui, si je peux alors là, il y a un point important, c'est exactement le point de vue de mon chat. Enfin, plus exactement, le chat qui m'a choisi. Dans la cour où j'habite, il y a un chat qui appartient à un petit garçon. Mais ce petit garçon peut difficilement le garder la nuit sur un coussin près de lui, parce que, comme vous le savez, les chats, la nuit, ça se promène, ça fait du bruit, ça demande à être nourri à 5 heures du matin, enfin, etc. Donc, le petit garçon le met dans la cour. Et le chat, qui est un chat extrêmement intelligent, a trouvé un lieu absolument idéal où venir habiter, où il est installé d'ailleurs à peu près en permanence, qui est mon appartement. Donc, la question est de savoir si je suis le drone de ce chat et si je sers à ce chat ou bien si le chat se sert de moi. Et je crois que c'est la question fondamentale posée par la culture. C'est une des questions fondamentales, on en verra plusieurs, mais peut-être de plus sérieuses comme celle de la relation avec l'utopie. Mais c'est pourquoi est-ce que ces intelligences artificielles fabuleuses, qui ne ressemblent à rien de ce que nous pouvons imaginer, enfin créer en tout cas dans le présent et dans l'avenir vraisemblable, pourquoi est-ce qu'elles laissent subsister des humains dont elles n'ont aucun besoin ? Pourquoi est-ce que je nourris coûteusement Pourquoi est-ce que je nettoie le bac, le coussin, etc. de mon chat? Je pense que les relations sont à peu près les mêmes. Les drones et les intelligences artificielles ont peut-être besoin des humains parce que ça leur donne un certain sens, ça donne un certain sens à leur existence. Ils en ont beaucoup d'autres, ils résolvent des problèmes mathématiques assez difficiles. Enfin, ça les amuse. Bon. Ben, mon chat, il m'amuse, et quand il est sur mes genoux et qu'il ronronne pendant que je regarde la télévision, il est très content, et moi aussi.
On va peut-être revenir justement sur ce terme d'utopie. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on puisse employer ce terme d'utopie? Et qu'est-ce qui fait que certains, dont je suis dans une certaine mesure, peuvent considérer que ce qu'a créé, enfin, l'univers qu'a créé Ian Banks peut représenter une des dernières rares formes d'utopie dans ce bas monde?
Voilà, je suis dans une situation extraordinairement difficile où je me suis mis moi-même, comme il arrive souvent, puisque j'ai moi-même, dans des préfaces au livre de Banks sur la culture, qualifié la culture d'une utopie. Or, qu'est-ce qui caractérise une utopie? Je ne tenterai pas de donner une définition, parce que je crois que donner des définitions, c'est toujours une erreur. Mais qu'est-ce qui caractérise une utopie? Qu'est-ce qui a fait le travail des utopistes, qui se sont d'ailleurs la plupart du temps beaucoup lus et étudiés les uns les autres? C'est essayer de construire une société humaine qui soit satisfaisante autant que possible pour tout le monde et qui soit stable. Et les prix à payer sont souvent extraordinairement élevés. Est-ce que, en ce sens, les romans, enfin l'univers inventé par Ian Banks est une utopie? Mais finalement, je pense que non, parce que Banks n'a pas besoin de décrire une organisation parfaitement satisfaisante, puisqu'il a résolu d'un claquement de doigts, ou plus exactement d'un coup de clavier d'ordinateur, deux problèmes. Le premier, le plus important, auquel toute société humaine est affrontée, c'est celui de la rareté. Nous avons toujours, enfin nous sommes toujours confrontés à des raretés, raretés en matières premières, en produits finis, raretés en capitaux, raretés en temps de travail. Enfin, le problème de toutes les sociétés, humaines, ça a toujours été, depuis que l'humanité existe, et même en un sens avant, le problème de la rareté.
D'où la question de l'allocation des ressources, donc voilà, la question éminemment politique la question de l'allocation des ressources.
Politique et économique. Et économique. Alors donc là, Banks l'élimine, puisque à partir du moment où on a de l'énergie, on peut fabriquer n'importe quel atome, n'importe quelle molécule, absolument n'importe quoi, hein, sans contrevenir aux lois, si elles existent, de la nature. Et le deuxième aspect qui caractérise une utopie, c'est son organisation sociale. Et Banks, là-dessus aussi, tire un trait de plume en ne décrivant pas cette organisation sociale qui est supposément assurée par la rationalité, la sagesse et, ce qui est peut-être le plus important dessous, la coopération des intelligences artificielles à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire qu'entre elles, il n'y a pas de discussion et des conflits, mais elles finissent toujours, ça prend quelquefois quelques milliers d'années, mais ce n'est pas grave, on a le temps, elles finissent toujours par trouver une solution médiane. Elles sont profondément rationnelles. En fait, ce sont des anges. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de rareté, d'utopie, quand il n'y a plus de rareté et quand des dieux bienveillants s'occupent d'organiser votre existence? C'est la question que je pose, et c'est pourquoi j'ai tendance à penser que la culture ne constitue pas une utopie.
Olivier. Il y a le fait, en fait, ce qu'on disait sur l'allocation des valeurs, c'est-à-dire que finalement, la culture en interne, le politique n'existe plus. Il est dissous totalement.
Il n'y a pas de gouvernement, voilà. Pas de règles juridiques.
Oui, puisque comme il n'y a rien à distribuer, il n'y a plus de politique. Le politique n'existe finalement que dans la rencontre avec l'autre. D'ailleurs, c'est ce que font les vaisseaux.
C'est une société post-politique, voilà, post-gouvernementale, post-représentationnelle. Voilà.
Et donc le politique n'existe que dans la rencontre avec l'autre. Et c'est là que les stratégies des vaisseaux existent, qu'il y a des antagonismes entre les vaisseaux sur ce que finalement, comment on conduit la civilisation, la culture dans ses rapports avec les autres et les directions qu'on peut le donner. Donc finalement, le politique n'existe qu'à travers ça. C'est ça qui est assez fascinant et qui est de l'ordre des relations internationales à ce moment-là. et non pas du politique économique. On est dans des réflexions, et effectivement, dans la question des valeurs, qui sont un problème de relations internationales, et pas simplement de politique de gestion de la rareté.
Mais du coup, est-ce qu'on ne débouche pas sur une hypothèse qui est un peu perturbante, qui est que la seule manière de faire tenir une utopie, c'est de recourir à des machines, et à des machines extrêmement évoluées. Enfin, il y a... Voilà. Le postulat sur lequel il construit son...
Il faut bien déléguer un certain nombre de tâches soit ennuyeuses, soit trop lourdes pour des cerveaux humains, à des cerveaux qui sont plus rapides, plus puissants et qui peuvent traiter beaucoup plus de données. Et le seul moyen de faire ça, c'est de, dans un premier temps, de déléguer à des machines. Évidemment, si de telles machines existent, du moins dans l'optique de Banks, elles sont conscientes et elles sont capables donc d'avoir leur propre but et leur propre désir et visée.
Et en plus, ces machines ne vivent pas cette gestion comme une charge.
Non, de toute façon, leur capacité en énergie, en temps et en calcul est telle que rien n'est une charge pour elles. C'est ça qui fait l'attraction formidable de la... Enfin,
c'est une question qui est laissée en suspens, l'œuvre de Banks. Enfin, pour parler comme les anglophones, on ne connaît pas leur agenda et leurs intérêts.
Oui, mais elles sont, les drones sont... Enfin,
on les voit agir, quand même.
Oui, et puis ils sont susceptibles... Enfin, il y a une susceptibilité sur le fait d'être esclaves ou pas. Même les drones, il y a une réflexion. Est-ce qu'une machine peut être le fait de produire, parce qu'il faut quand même produire, d'être un esclave ou d'être utilisé par... C'est une réflexion, justement, au niveau des valeurs.
Et puis les drones râlent. Les drones sont constamment en train de râler dans les livres de banque parce qu'on leur fait faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'on leur demande des choses.
Et les machines qui produisent, à qui on confie des tâches productives, n'ont pas de conscience, ce qui évite effectivement d'avoir des problèmes pour s'interroger sur le degré d'esclavagisme qui est laissé dans ce type de société. Gérard, tu voulais ajouter ?
Oui, moi je ne crois pas du tout qu'on puisse parler d'esclavagisme à propos de ces machines. Certains que ce sont des esclaves idéaux. C'est pas le problème, c'est que ce sont des esclaves qui pourraient parfaitement se passer de leur maître. Hein. Exactement comme ma vie ne dépend pas absolument de celle de mon chat. Je serais extrêmement triste s'il y arrivait quelque chose et si en rentrant à Paris je ne le retrouvais pas, je serais profondément triste. Enfin, ma vie continuerait quand même d'une certaine manière. Et toutes ces machines intelligentes, des petits drones qui feignent d'être irascibles, qui feignent d'avoir un caractère. On a très souvent l'impression, en lisant Banks, que c'est parce qu'ils se moquent de leurs soi-disant maîtres humains, des pauvres maîtres humains, souvent de jolies femmes d'ailleurs, qui sont fragiles, enfin, qu'il faut protéger, qu'il faut constamment devancer, non seulement dans leurs désirs, mais dans toutes les bêtises qu'ils vont faire ou qu'elles vont faire. Ils prennent beaucoup de plaisir à être beaucoup plus rapides que les humains. Donc, très probablement, quand ils se montrent un peu agacés, au fond d'eux-mêmes, ils rigolent profondément. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine que Banks les imaginait.
C'est effectivement un point qu'on aurait pu ajouter, c'est la forme d'humour qu'il arrive à instiller aussi dans son œuvre, avec des noms de vaisseaux absolument abracadabrantesques.
Il y a un aspect, finalement, de ces vaisseaux et drones. Il y a un aspect très britannique d'excentricité. Ce sont des excentriques et même il y a des classes de vaisseaux qui peuvent être vraiment considérées explicitement comme excentriques. Et ça, c'est un aspect assez britannique de mettre en scène ces excentricités. Et donc c'est pour ça qu'il y a cet humour lié à cette excentricité.
D'ailleurs, l'aspect description d'une société idéale, peut-être plutôt que d'une utopie, en tout cas d'une société que nous considérerions tous comme très agréable, et chez Banks, passe progressivement, en tout cas chez Banks, au second point, derrière la description d'un univers. Banks est un inventeur inépuisable et extraordinaire de paysages, de constructions, de mondes plus invraisemblables les uns que les autres et qu'il réussit à rendre parfaitement vraisemblable. Lire un roman de Banks, ce n'est pas tant faire l'expérience de cette société singulière qu'est la culture que faire un voyage proprement extraordinaire à travers la galaxie ou à travers tout ce que vous voudrez. Et une des choses que certains de ses lecteurs, qui sont à mon avis mal avisés, lui reprochent, c'est qu'il termine abruptement la plupart de ses romans. Il s'en débarrasse dans un épilogue en quelques pages. Alors ça a un sens profond. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la gare d'arrivée, c'est le voyage. Et c'est aussi ce qui nous intéresse.
Pas plus. Je voudrais rebondir sur l'aspect, le prix à payer pour cette utopie, la forte délégation à des machines. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu perturbant? Parce que bon, je reprends une des phrases que cite le métamorphe Orsa dans Une forme de guerre. C'est effectivement, dans la culture, les humains ont un statut qui s'apparente à celui, ce que disait Gérard, d'animaux de compagnie. Donc, et d'où la révolte de Orsa le métamorphe, qui effectivement considère que se rallier à la culture, c'est absolument inenvisageable, sauf à accepter d'être traité comme un animal de compagnie dont le destin, certes c'est le loisir, c'est l'hédonisme, mais quelle est la prise que l'individu garde sur son destin?
Mais il y a le fait que finalement, il n'y a jamais explicitement de relation de pouvoir entre les vaisseaux et les humains.
Officiellement et formellement, enfin voilà. Oui, quelle garantie les humains ont-ils qu'ils ne sont pas manipulés dans leur comportement?
Entre humains, quelle garantie nous ne sommes pas manipulés? Nous-mêmes, nous manipulons d'autres humains. Il y a une certaine relation d'égalité, justement. Donc les machines peuvent nous manipuler de la même manière que nous, entre humains, nous nous manipulons. Donc justement, il y a une vision tellement égalitaire, ce qui pose problème dans la machine, c'est si le fait qu'on lui délègue un truc lui donne du pouvoir sur nous. Mais si on lui délègue et qu'elle ne prend pas de pouvoir, ça va. Surtout que bon, pendant ce temps-là, on peut s'amuser. Comme il n'y a pas vraiment autre chose que s'amuser. La question, c'est si les humains, on ne pouvait pas faire quelque chose. Mais comme l'essentiel de la vie dans la culture, c'est s'amuser...
Parce que toutes les contraintes matérielles sont éliminées de facto, puisqu'elles sont tout ce qui est ce qui remplit une bonne partie de nos vies, le travail, le gagne-pain, la production économique, etc. Tout ça fonctionne tout seul. Donc il reste la question qui fait peur à beaucoup de gens apparemment, c'est est-ce qu'il reste quelque chose aux humains? Mais il reste tout. Il leur reste la créativité, il leur reste là, il leur reste une certaine forme de jeu politique, même si les conséquences sont du coup beaucoup moins importantes. Et il leur reste circonstances spéciales pour entrer en contact avec d'autres civilisations. Ça laisse quand même pas mal de choses pour s'occuper. On peut le supposer, c'est pas quelque chose. Enfin, je peux me tromper ou ma mémoire peut me faire défaut, mais il leur reste sans doute l'exploration en partie de l'univers, des paysages, oui, des créations.
Non,
etc.
Non, là-dessus, je suis désolé, Sylvie, mais je crois que je peux être formel. D'abord, dans la description même que donne Banks de la vie des humains à partir de sur ces orbitales ou au travers de ces vaisseaux qui sont des espèces de clubs méditerranéens, mais d'une proportion légèrement surdimensionnée, la quasi-totalité des humains mène au moins à notre regard des vies d'une totale futilité. Ils s'intéressent de savoir s'ils peuvent porter leurs organes à l'extérieur. Ils changent de sexe à volonté. Non, mais c'est pas futile. Mais je veux dire, ça ne sert aucun but qu'il soit extérieur à leur désir immédiat. Et justement, un de mes amis, qui est docteur-chercheur à Harvard, me faisait part de sa désolation concernant une société comme celle de la culture, ou de façon plus générale, ce que donnerait éventuellement la singularité. Rassurez-vous, nous en sommes très loin, ça risque pas de nous arriver. Et c'était que lui, en tant que chercheur, ce qui le passionnait dans la vie, c'était d'une part d'être à la pointe de découverte, de la recherche, d'essayer de voir des trucs qu'on n'avait pas encore vus, et d'autre part, en tant que médecin, de s'en servir pour soulager la misère humaine. Or, dans l'univers de la culture, les humains ne peuvent pas avoir aucun de ces deux buts dans l'existence. Faire des recherches, mais les ordinateurs, les intelligences artificielles géantes les font 10 fois mieux. Aller loin découvrir l'univers, comme le suggérait Sylvie, ils sont pas capables de suivre le rythme. Enfin, donc, les humains peuvent mener leur petite vie. Alors, il y a quand même un point très important, on n'a peut-être pas parlé jusqu'ici, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que, directement ou indirectement, les IA ne laisseraient pas faire. Elles ne laisseraient pas un Hitler ou un Staline créer une société à sa main. Comment ferait-elle pour ne pas le faire ? Malheureusement, Banks n'a pas écrit le livre où il nous le dirait, mais il le dit parfois. Elle n'hésite pas, discrètement, à employer des humains un peu dévoyés pour faire de la place, parce que les machines, elles et les autres humains, ont trop de valeur pour se salir les mains.
Sur la question de soulager la misère humaine médicale, il y a comme un exemple dans Banks d'un roman qui est censé ne pas être dans la culture, mais qui est de l'inculture, c'est le cas d'Aversion, où on a deux personnes, dont un qui est un médecin. Donc, en fait, c'est à l'extérieur de la culture, où on est dans des sociétés différentes, où quelqu'un de la culture peut exercer la médecine ou être garde du corps, donc d'autres des activités moins futiles, pour reprendre ton terme.
Oui, précisément. Mais dans le cas d'Inversion, on est précisément sorti de la culture. Ce sont deux personnages, l'un qui est un guerrier, qui est un soldat, et l'autre qui est un médecin, qui ont décidé de quitter la culture en sachant quels avantages ils perdaient pour aller sur un monde qui correspond à peu près à notre Moyen-Âge, hein, ou à la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, pour pouvoir y exercer des talents que dans leur société d'origine ne pouvaient pas exercer. Et alors ça s'appelle inversion pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que du point de vue de la compassion, enfin, et de l'usage des techniques, c'est le guerrier qui se révèle à la fin compassionnel et c'est le médecin qui se révèle à la fin combattant. Mais on pourrait peut-être revenir à des sujets. Ben, est-ce que, si tu m'y autorises, je voudrais dire un mot sur la régulation par les machines. Parce que, bon, beaucoup, beaucoup moins loin que la culture, nous avons, mes amis et collègues là, le confirmeront peut-être, nous avons recours à des machines ou à des mécanismes plutôt qu'à des machines pour opérer certaines régulations. Si vous voulez, par exemple, quand un économiste utilise un modèle, il s'en remet, avec les succès ou les insuccès que l'on sait, il s'en remet à une machine à laquelle il fournit un certain nombre de données qui sont plus ou moins bonnes et dont il va recevoir un certain nombre de réponses dont il va tenir compte pour prendre des décisions économiques et politiques concrètes. Alors, il y a déjà là une part de régulation mécanique. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ?
Oula, merci de me poser la question.
Ou régulation algorithmique, puisqu'on a des algorithmes qui prennent une place croissante dans la vie.
Mais là, en fait, je vais dévier un peu, mais ça va rejoindre ton propos. C'est que dans mon propre univers du Melkin, qui, je le reconnais, a bénéficié de la lecture de Ian Banks, donc c'est pour ça que j'en parle, pas simplement pour parler de ce que j'ai écrit. On est dans une société où des tas de cultures, que ce soit avancées ou archaïques, c'est-à-dire on a des cultures indiennes ou des cultures austro-hongroises sur certaines planètes, donc sur des tas de planètes, mais chaque planète a une intelligence artificielle que j'appelle unité Neumann, en référence à von Neumann, et ces entités sont chargées de réguler, de stabiliser justement cette question des ressources. Parce que pour que ces cultures existent, et donc il y a une sorte aussi de programmation culturelle, c'est-à-dire que les habitants de ces sociétés sont conditionnés dès la naissance pour accepter les valeurs de cette société archaïque ou autre, mais que pour ces sociétés culturelles existent, elles existent dans un certain équilibre des ressources et de leur allocation. Et donc ce sont les intelligences artificielles qui sont chargées de garantir qu'il n'y a pas plus de ressources qui arrivent et que tout ça est stabilisé. Il n'y a que dans l'espace où là on est en dehors de ça, et là j'ai repris cette idée de Banks d'un univers où la rareté n'existe pas, il n'y a pas de relation d'argent ou autre, les relations d'argent, d'échange, ça n'existe que sur les planètes, mais elles sont définies par les valeurs de chaque culture. Mais ce qui est important, c'est que ce ne sont pas les humains qui décident politiquement, mais ce sont les intelligences artificielles qui disent votre culture définit que ça doit se passer comme ça. Et donc ça, on a une gestion de société par les intelligences artificielles. Et c'est banksien, mais dans l'autre sens. Et sur le fait, j'aurais pensé aussi sur la peur qu'on peut avoir des machines. Moi, quand je travaille de plus en plus maintenant sur les intelligences artificielles, on va avoir une nouvelle bientôt là-dessus que je vais publier. Pour rendre ça moins angoissant, j'ai privé mes intelligences artificielles du langage. Parce que le problème que l'on a, c'est que comme on peut discuter, dans le cas de Ian Banks, on peut discuter avec une intelligence artificielle, donc on a l'impression qu'elle est humaine. Or, une vraie intelligence artificielle, si on veut la rendre réaliste, si on veut avoir une intelligence artificielle forte, bah finalement, il n'y a aucune raison qu'elle puisse utiliser notre langage pour communiquer. Si elle se développe de sa propre manière, elle peut interagir avec nous. Ça, c'est tout à fait faisable, mais pas obligé qu'elle discute avec nous. Donc, justement, là, on rejoint l'idée du chat, c'est-à-dire qu'on a nos animaux domestiques, mais on peut arriver à communiquer avec eux, même s'ils n'ont pas le langage. Je crois qu'un des aspects angoissants de la régulation par les machines, c'est si elles ont le langage. On a cette idée d'identification. Si elles ont le langage, ben, on va se comporter avec elles. On a le même rapport qu'avec d'autres êtres humains. Tandis que si on doit utiliser d'autres choses, là, dans les intelligences artificielles que je travaille en ce moment, ces intelligences artificielles communiquent par les sensations, les émotions, par une forme de communication poétique, donc par une autre manière de résoudre le problème de la communication. Donc ça aussi, c'est quelque chose de différent à ce niveau-là.
Et j'ajouterais qu'un autre aspect angoissant sur lequel commencent à réfléchir un certain nombre de chercheurs, de philosophes, c'est la garantie qu'une superintelligence ait des formes de moralité qui soient adaptables à notre monde. Qu'est-ce qui garantit qu'une superintelligence ne va pas profiter de son intelligence supérieure pour...
On n'y est pas quand même.
On n'y est certes pas encore. Mais...
Oui, non, là, ça, je crois que pour l'instant, c'est de la science-fiction et il faut qu'elle soit très bien écrite pour que ça ait un intérêt.
On aura une machine à remonter dans le temps avant.
Oui, c'est ça. J'ai inversé l'ordre des priorités vraisemblables. J'ai pendant longtemps cru que j'étais jeune et ignorant, que l'intelligence artificielle serait assez rapidement atteinte. Le voyage interstellaire viendrait après, et puis la machine a voyagé dans le temps. Eh bien, j'ai complètement renversé cet ordre des priorités. Je crois que la première chose à laquelle on arrivera, c'est le voyage interstellaire. La deuxième, c'est le voyage dans le temps. Et la troisième, peut-être, c'est l'intelligence artificielle. Mais Banks était un romancier... Et il avait tout à fait raison, pour notre plus grand plaisir, d'écrire comme il a fait, Olivier aussi d'ailleurs. Tu veux dire
quelque chose ? Oui, c'est-à-dire la question, hein, c'est qu'à partir de quel moment une intelligence est effectivement intelligente et consciente ? Et c'est toute la question de la réalité de la conscience, c'est-à-dire que quelque chose qui donne l'illusion, justement par le langage, de répondre et de réagir à vous et d'interagir avec vous est par définition conscient parce qu'on n'a pas plus de preuves de que mon voisin est conscient qu'on pourrait en avoir que la boîte là si elle me parlait est consciente.
Non, je m'excuse mais j'ai lu, relu, je pourrais presque vous réciter par cœur le fameux texte dit le test de Turing, et il faut bien ramener le test de Turing à ce qu'il est, c'est-à-dire une plaisanterie. Et c'était une plaisanterie délibérée de la part de Turing. Et il y a une chose très intéressante dès le départ de ce texte, c'est qu'il ne propose pas de reconnaître, de distinguer, on communique par télétype, hein, ça s'est été écrit un peu après la guerre, dans les années 50, je crois, donc avec des moyens moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Mais qu'on communique par télétype autrement, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais donc le premier test qu'il propose d'établir, c'est celui entre un homme et une femme. Êtes-vous en présence d'un homme ou êtes-vous en présence d'une femme ? Bon. Ce qui est intéressant de savoir et important de savoir, c'est que Turing était homosexuel et qu'il est même mort d'une condamnation pour homosexualité absolument scandaleuse dans la Grande-Bretagne de l'époque, alors que ça avait été un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais tout son texte est une plaisanterie digne d'une intelligence artificielle de Banks, parce qu'il a constamment la langue dans la joue, comme on dit en anglais, il se moque de son lecteur. La réalité, c'est que nous n'avons pas de test de Turing, c'est-à-dire que si par hasard, un jour, il y avait une intelligence qui se révélait artificielle et consciente, nous n'aurions aucune espèce de moyen de la distinguer. D'ailleurs, il n'y a rien qui me permette, et c'est ce qu'écrit Turing, il n'y a rien qui me permette de décider que tel ou tel d'entre vous est intelligent. On peut peut-être revenir un peu sur la question des régulations dans notre société, en allant moins loin que dans les planètes lointaines qu'a exploré Olivier Paquet. Oui.
C'était une dernière question que j'avais avant de passer la parole au public. C'est effectivement le type de résonance qu'on peut trouver. Voilà. Est-ce que c'est uniquement la science-fiction ? Est-ce que le travail de Banks, ce n'est pas aussi une manière de réfléchir sur l'état dans lequel est notre monde et les directions dans lesquelles avance notre civilisation ? Donc, effectivement, sur ce que j'ai appelé la régulation algorithmique et sur les formes de délégation qui se font implicitement sans qu'il y ait de véritable choix collectif. Après tout, voilà, on a des algorithmes qui gèrent des aspects... important de nos vies, et à commencer par les marchés financiers, comme on sait maintenant.
Oui, alors, je pensais précisément aux instruments algorithmiques, c'est-à-dire, bon, c'est jamais que des programmes, qui permettent d'évaluer les risques financiers. Alors, comme vous savez, comme tout le monde sait depuis 2008, c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe pour tout le monde, mais c'est une catastrophe pour beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que des événements dont la probabilité est estimée à devoir se dérouler, intervenir plutôt une fois sur les 1000 ans ou 10 000 ans, se sont révélés possibles une fois par an. Et le jour où ils se sont manifestés dans l'année et pas dans les 10 000 ans à venir, ça a fait comme un trou. Mais si tu m'autorises, j'aimerais attirer l'attention sur d'autres aspects, mais je ne veux pas d'un autre côté... Attends, j'ai un peu perdu mon fil avec cette histoire de régulation. Ce sont les choses qui arrivent. Oui, il y a deux questions qui sont très importantes que Banks ne pose pas, mais qui sont présentes en quelque sorte en arrière-plan de son univers de la culture. Deux questions qui sont très présentes dans nos sociétés, qui sont très immédiates. La première question, c'est celle de la compétence des machines. La compétence, je n'ai pas dit l'intelligence, je dis la compétence des machines. La compétence des machines ne cesse d'augmenter. Et si bien que chaque fois que dans un domaine, la compétence d'une machine dépasse celle de l'humain qui a été formé pour cette compétence, cet humain se retrouve au chômage. Il se retrouve sans boulot, éventuellement, provisoirement, s'il réussit à acquérir une autre compétence, durablement, s'il n'y parvient pas. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important dans notre société, c'est celui de la compétence des machines. Alors maintenant, j'ai reperdu mon second, mais comme vous allez, le temps que vous interveniez, je le retrouverai peut-être.
Effectivement, c'est toute la question de l'automatisation d'une série de tâches qui étaient auparavant dévolues aux humains et qui se retrouvent assumées par des machines. Et la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait des humains qui deviennent surnuméraires ?
J'ai lu des chiffres récemment.
Là, on explore et on crée, il n'y a que ça à faire.
Oui, le problème, c'est que la destruction des emplois n'est pas compensée par une création d'emplois équivalents. C'est-à-dire qu'on a, cette semaine, une étude comme ça, il y avait 2 à 3 millions d'emplois détruits par l'automatisation, mais parce que ça produit quand même d'autres emplois, mais ça avait une création d'emplois que de 500 000. Donc ça, on est actuellement dans une société où on n'arrive pas à créer suffisamment de domaines de compétences qui permettent de compenser.
On est dans une société pré-banksienne, mais qui ne veut pas l'admettre, et qui donc crée artificiellement de la rareté, là où on pourrait très bien ne pas en avoir.
Au final, c'est le modèle qu'il nous propose, quoi. C'est que tant qu'à tout automatiser, eh bien, autant aller vers la culture et puis nous acheminer vers l'hédonisme généralisé, le loisir.
C'était aussi GB, l'an 1. Enfin, les Français l'ont en fait avant Banks.
La création de multiples symphonies pour occuper nos vies.
Nous n'avons pas les intelligences artificielles pour la gérer harmonieusement. Et ça, c'est un terrible inconvénient. Mais dans cette question de la compétence des machines, et ce que nous appelons tout à fait à tort à l'heure actuelle crise se manifeste, et l'occasion plus exactement chaque fois d'une augmentation de compétence des machines. Il faut bien comprendre que ça ne se passe pas forcément par le bas. Il y a deux domaines, par exemple, un qui est bien connu, l'autre qui est en voie de développement, où la compétence des machines s'est développée à une grande vitesse. Première, c'est la peinture des voitures sur les chaînes de fabrication. Essentiellement, on a développé des machines pour peindre les voitures, les carrosseries de voitures sur les chaînes de fabrication. pour économiser du travail humain, mais surtout pour économiser de la vie humaine. C'était un des métiers les plus malsains de toute l'industrie. Les machines font ça très bien et elles ne périssent pas en général à 50 ou 60 ans d'un cancer du poumon lié aux particules de peinture. Bon, donc on sait très bien, au moins dans les sociétés très industrialisées, remplacer pour une opération très compliquée la peinture d'une carrosserie de voiture par une machine. Mais il y a le domaine de la chirurgie à l'autre bout. Mes amis chirurgiens sont inquiets ou se félicitent, ça dépend des cas, des progrès extraordinaires qui sont faits en matière de chirurgie robotisée. Alors pour l'instant, ça améliore considérablement le travail du chirurgien, mais il n'y a aucune espèce de raison que ça ne le remplace pas à un moment ou un autre, parce que quand dans un espace de configuration on peut définir tous les paramètres, et c'est le cas, quelle que soit la complexité de l'opération, une machine peut le faire généralement mieux qu'un être humain. Un être humain peut lui intervenir dans un espace de configuration qui n'est pas défini, qui reste à définir.
Il reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public de la part de gens qui ne connaîtraient pas Banks ou qui seraient stimulés par certains aspects ?
Bonjour à vous. Donc, je rebondis sur la culture, du coup, l'univers que vous présentiez. Je me disais, est-ce que donc une culture où tout est assisté par ordinateur, où les humains n'ont rien besoin de faire, où ils restent juste à rester sur leurs loisirs, si un jour il y a par exemple un problème dans l'ordinateur, un virus, ou qu'il y ait une attaque ou quoi que ce soit, que les ordinateurs ne soient plus là ou ne soient plus compétents, est-ce que du coup ce serait plus vraiment une utopie, mais plutôt une bombe à retardement pour l'humanité ? Est-ce que du coup, vu qu'ils n'auraient plus de compétences à force de rester dans les loisirs, ils ne sauraient plus recréer leur propre machine ?
Dans la culture, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de hacker.
Non, on ne peut pas dire
qu'il y a une bombe dans...
En plus, ça se prépare tout seul.
La suite de Consider Flebas, comment ça s'appelle ? Merde.
Oui, il y a un sabotage. Enfin, j'ai oublié aussi le titre, mais il y a un sabotage. Et puis, il y a une orbitale qui explose, enfin, purement et simplement. Non, mais la question de la panne, on suppose qu'implicitement, vous faites peut-être, ou vous ne faites pas, que tout est contrôlé par un ordinateur central, bon, quelque chose qui est quelque part une mouche qui tombe sur le clavier au mauvais endroit, comme dans le Brésil de Terry Gilliam, et tout se bloque. Mais dans le cas d'une société comme la culture, ou bien dans le cas de notre société, ça n'est pas imaginable parce que les intelligences artificielles en question, dont il n'est pas question qu'elles existent demain, mais qui sont dans les livres de Banks, elles existent en bien plus grand nombre que les humains. Bon, là, s'il y en a une qui déraille, il y en a d'autres qui iront voir ce qui se passe. Ce que vous imaginez, c'est exactement ce qu'on pourrait imaginer dans notre société, c'est que toutes les voitures tombent à panne au même moment. Ou encore, que tous les ordinateurs, tous les téléphones portables tombent à panne au même moment. Évidemment, il y a la disparition de l'électricité.
Il y a un domaine, ça peut penser à Jean-Claude Duniac, sur les avions. Tous les circuits sont redondants. Il y a plusieurs circuits parce que c'est tellement de l'électronique suffit. Non, donc il y a quand même le fait d'être la redondance, c'est quelque chose de très important. Et les informaticiens, ils réfléchissent. Le réseau Internet, il n'y a pas juste un câble. Il y a plusieurs chemins. Voilà comment c'est ça qui évite que tout s'effondre d'un coup.
C'est un des principes cybernétiques. Pour l'aviation, à peu près tout le monde sait, enfin en tout cas les spécialistes, que plus de 99% des accidents ont une cause humaine à un moment quelconque. Et le grand rêve des fabricants d'avions, c'est de supprimer le facteur humain. À ce moment-là, il y aura beaucoup moins et peut-être plus du tout d'accidents. Nous sommes en route pour la culture.
Une autre question ?
Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Je ne connais pas... C'est un peu bizarre de s'entendre, excusez-moi. Je ne connais pas Bank du tout, donc je parle vraiment de l'extérieur de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je trouve très intéressant cette question de l'énergie infinie, d'un progrès technologique qui rend l'économie un peu autogérée. Et je pense que finalement, ce n'est pas forcément quelque chose de si éloigné quand on regarde l'évolution technologique depuis 50, 100, 150 ans. Et par contre, là où je suis surpris, c'est sur l'idée d'utopie. avec cette humanité qui est un peu divisée dans ce que vous dites, entre une humanité qui est tournée vers des besoins immédiats, du plaisir immédiat, un hédonisme un peu futile, et une humanité qui est tournée vers les autres, vers ceux justement qui ne font pas partie de la culture et qui sont ceux qui sont en souffrance par rapport à cette humanité qui bénéficie des avantages d'un progrès technologique. Donc, quelque part, comment est-ce que Banque fait cette différence et comment est-ce qu'on peut qualifier d'utopie cette humanité futile alors que la vraie utopie, est-ce qu'elle ne serait pas dans une humanité qui est libérée de ses soucis, qui est capable de se tourner vers l'autre, tourner vers ceux qui souffrent, aller les aider, aller les accompagner vers leur libération? Est-ce qu'elle n'est pas là, cette utopie? Et justement, est-ce que l'autre partie, c'est cette autre humanité qui est un peu dans son quotidien futile, est-ce que ce n'est pas au contraire une forme de contre-utopie, de dystopie, quelque part?
Sylvie, oui.
Il y a plusieurs choses. D'une part, la culture, ce n'est pas des humains, ce n'est pas nous. C'est une civilisation qui s'est développée indépendamment et qui, à un moment, il y a un livre, une novella, dans laquelle la culture entre en contact avec la Terre, c'est The State of the Art, et j'oublie l'état des arts. Oui, mais c'est pas le bon titre. Il a été retraduit. Et Dozio, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, les autres civilisations, soit n'ont pas voulu faire partie de la culture, parce que ça ne les intéressait pas, et donc ils se débrouillent très bien tout seuls, soit certains sont intéressés, mais pas systématiquement. Et c'est aussi des non-humains.
Et justement, l'un des problèmes de la culture, c'est que justement, elle a tellement. On avait insisté au début sur la question des valeurs. C'est qu'elle est consciente de ses valeurs. Et donc, elle se dit, mais pourquoi donc les gens souffrent autour de nous? Mais c'est justement pas mal de sources de problèmes. C'est-à-dire, nous pensons que vous, autres extraterrestres, d'autres civilisations, vous ne vivez pas. On a mieux à vous offrir. Il y a la question. Beaucoup de. Je crois que c'est dans. Je ne sais plus dans lequel, mais la question de l'intervention, jusqu'à quel moment la culture doit intervenir dans les sociétés qui n'appartiennent pas à la culture, comment les faire évoluer, comment faire évoluer une société archaïque, les différents niveaux d'intervention, c'est quelque chose de très important de la culture. La culture, ce n'est pas parce que les humains à l'intérieur s'amusent, la culture est consciente qu'elle est quelque chose dans l'univers, qu'il y a d'autres peuples à l'extérieur et qu'elle est curieuse, mais elle veut aussi elle confronte ses propres valeurs aux civilisations extérieures. Donc il y a quand même, elle est tournée vers l'extérieur, mais elle est tournée d'une manière globalisante. Il faut bien comprendre, quand on dit la culture, c'est vraiment le groupe de civilisations, c'est pas juste un ou deux individus, c'est un groupe de civilisations.
Oui, pour répondre un peu, peut-être en écho à ce que tu dis, Olivier, mais surtout pour répondre à la question posée, le second problème auquel je pensais tout à l'heure, au-delà de la compétence des machines, c'est que dans l'état actuel des choses, d'une manière ou d'une autre, toutes les sociétés humaines reposent sur la division du travail et sur l'échange de nos capacités et de nos travaux, avec des résultats qui sont éventuellement inégalitaires. C'est une autre question que justement les utopies se sont proposées, à juste titre ou non, de résoudre. Mais enfin, c'est cet échange généralisé des services dont nous excluons les très jeunes parce que nous considérons qu'en faisant, dans nos sociétés, qu'en faisant des études, ils se préparent à rendre des services plus tard, et dont nous excluons les vieillards comme moi parce que nous considérons qu'ils sont complètement usés et désormais totalement inutilisables. Mais enfin, la quasi-totalité de la société est prise dans un jeu d'échanges interpersonnels, d'échanges d'incompétences, d'échanges de travail. Or, c'est précisément quelque chose qui est mis gravement en question dans notre société même, par la montée de la compétence des machines dont je parlais, parce que qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont radicalement incompétents? Et à l'autre bout, c'est une question qui n'est pas posée clairement, mais qui est implicitement posée, à laquelle il mérite de réfléchir, dans la culture de Banks. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des réponses du type le revenu minimum, enfin, le revenu de vie, l'allocation de vie. Certes, mais ça signifie aussi une société humaine désintégrée.
Sylvie, tu voulais ajouter un point?
Je suis absolument pas d'accord. c'est-à-dire que c'est une des, le revenu de base, pour moi, c'est une des façons de pallier justement à la création artificielle de la rareté dans nos sociétés, qui nous conduit à un désastre économique total. Dans la mesure où on n'a pas d'intelligence artificielle capable de réguler l'ensemble de la société et de distribuer la richesse que l'on crée de manière égalitaire, je ne vois pas comment on peut faire d'autre. Mais là on part dans un débat totalement, totalement différent. Et pour moi, ce que fait Banks quand il libère, parce qu'il il libère l'homme du travail nécessaire et du travail contraint pour gagner sa vie, il ne rend pas la vie futile, il rend la vie possible. Il rend le choix et la liberté aux humains. Et je vois vraiment la culture comme une utopie.
Eh bien, attends, je ne suis pas du tout d'accord, Sylvie, pour une raison simple. Parce que
c'est bien, la table ronde va se terminer.
Une minute. Pour une raison simple, c'est qu'on pourrait dire que Banks décrit, au fond, enfin, ce que la société à laquelle Sylvie, qu'elle appelle de ses voeux, moi aussi d'ailleurs, c'est au fond bien, la société que décrivait d'une façon extraordinairement ténue Marx, comme une société post-communiste, idéale, où tout le monde fait ce qu'il voudrait, et les gens travailleraient intellectuellement beaucoup s'ils en ont envie, ce qui est le cas, je crois, de tout le monde ici, ou bien autrement, ça donnerait à l'art, enfin, etc.
Ça existe dans certaines...
Le problème de la société de Banks, c'est que, dans la culture, c'est que ça n'a plus aucun sens, parce que les machines le font mieux. Il y a un petit domaine qui me paraît d'ailleurs très important. Il y a un petit domaine qui subsiste et qui amuse beaucoup les machines, qui intéresse beaucoup les machines et qui les conduise à valoriser certains humains, c'est le domaine de la création artistique. À supposer que la création artistique échappe à toute approche de l'intelligence, prise dans son sens le plus général, ce dont je ne suis pas du tout convaincu.
Et de toute manière, ça sera un autre débat, vu que le temps a passé. Si le sujet des intelligences artificielles vous intéresse, il y aura d'autres tables rondes. Et en tout cas, j'espère que nous avons donné envie de lire Banks, qui est vraiment un auteur très très intéressant. Donc je vous invite très fortement à vous plonger dans son œuvre si ça n'est pas fait.
Merci.
Merci.